Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani
wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo Gmondi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue de Studio Tamani. Aujourd'hui, nous parlons de l'école malienne. Depuis la rentrée scolaire effectuée le 1er novembre, les cours n'ont toujours pas commencé dans certains établissements publics de l'enseignement fondamental. Les élèves viennent chaque jour à l'école, retournent à la maison sans le moindre cours. Raison, la synergie des syndicats d'enseignants signataires du 15 octobre 2016 continue de boycotter les cours. Pourtant, les autorités avaient donné l'assurance de tout mettre en œuvre pour une année scolaire 2021-2022 réussie. Cela est-il possible dans ces conditions? Pourquoi les enseignants et le gouvernement n'arrivent toujours pas à trouver un accord? Comment éviter une autre année scolaire perturbée? Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions et bien d'autres avec nos invités. Ousmane Almoudou, porte-parole des syndicats des enseignants signataires du 15 octobre 2016, Djoukamadi Sissoko, parent d'élèves, et Dr Seydou Loa, enseignant-chercheur. Je suis Sekou Gadjigo à la présentation. Mesdames, Messieurs, bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Ce débat est en partenariat avec le programme d'engagement civique PEC. Je le disais au début de cette émission, l'année scolaire 2021-2022 a officiellement démarré lundi 1er novembre sur toute l'étendue du territoire du Mali. Mais cette rentrée n'est pas totalement effective. Dans certains établissements scolaires publics, les élèves vont et retournent à la maison sans même entrer en classe. Mamadou Samasekou, notre reporter, a fait le tour de certaines écoles de la rive gauche. Nous suivons son reportage.
Les maîtres disent qu'on ne peut pas partir à 7e année parce que le gouvernement ne peut pas faire une machine nous demander quoi.
Comme Aminata, ils sont des dizaines d'écoliers qui passent leur journée à jouer dans la cour de ce groupe scolaire de l'Académie de la Rive Gauche en commune 4 du district de Bamako. Ici, les enseignants refusent de rentrer en classe en respect au mot d'ordre de grève de la synergie. Oumar Traoré, enseignant.
Dans notre tête, c'est toujours 2020-2021 jusqu'à ce que les choses soient résolues. C'est ce qui fait qu'il y a blocage.
On ne peut qu'espérer sur un accord entre les protagonistes, affirme Djibril Sidibé, directeur du premier cycle de Nyomi E, qui trouve désolante cette situation.
Ils ont bloqué les propositions. Les enfants sont restés comme ça. Ils ne savent pas quelle classe ils doivent occuper. C'est pour cela que la rentrée n'est pas effective ici. Les enfants viennent et retournent à la maison. On ne sait pas que faire. Moi-même, je suis envoyé par les parents d'élèves.
Confronté au même problème, au second cycle voisin, les cours se déroulent normalement. Le directeur déclare qu'il a juste utilisé la note du premier trimestre pour établir la liste des admis en 8e et 9e. Souleyman Togola, directeur du groupe solaire Nyomi 10e cycle 2.
Maintenant, ceux qui devraient venir la 6e année pour faire la 7e année, c'est eux qui ne sont pas venus. Parce que les propositions au niveau du premier cycle, on n'a pas eu accès à ça.
Le secrétaire général du ministère de l'Éducation, Jean par téléphone, dit être au courant de cette situation et que le département n'a d'autre choix que d'espérer sur les négociations en cours. Kinan Agadida affirme aussi que la situation des admis au DEF non orientés sera bientôt décantée.
Alors Ousmane Almoudou, vous venez d'écouter ce reportage. Pourquoi boycottez-vous les cours?
Non, merci. Merci, permettez-moi de remercier et saluer tous ceux qui nous suivent. Dire que c'est une suite logique des mouvements que nous avons engagés depuis 2010, depuis l'année scolaire 2020-2021, et qui fait suite au refus du gouvernement du Mali d'appliquer une loi de la République. Et en son temps, je pense que tout le monde de bonne foi peut le confirmer, malgré la situation, nous sommes restés en classe, nous avons suivi les cours, jusqu'à la fin de l'année scolaire, que le gouvernement a pris une décision qui remet en cause les acquis des syndicats de l'éducation, qui remet en cause les acquis des enseignants du Mali. Et demandant au gouvernement effectivement de satisfaire à la demande d'application de la loi, le gouvernement ayant refusé, nous avons décidé de ne pas nous associer à ce qu'ils ont appelé des examens de fin d'année. Et bon, ils ont trouvé que avec ou sans nous, ils peuvent faire leurs examens, ils l'ont fait. Maintenant, nous attendons la rentrée. Et lorsque il a été question de la rentrée, nous avons participé à la réunion préparatoire que Madame le ministre de l'Éducation nationale a conviée. Nous avons dit tout simplement que, après les analyses, nous avons dit on ne va pas boycotter la rentrée. Mais nous allons rentrer. Mais en rentrant, voici les quelques mesures que nous allons prendre pour montrer au gouvernement que nous n'avons pas renoncé à notre demande d'application de la loi. Et effectivement, ce sont ces mesures-là qui font qu'il y a des perturbations au niveau des écoles. Parce que déjà, la rétention de notes, la rétention de propositions de passage fait déjà des mesures qui ont été prises depuis l'année scolaire précédente. Et juste à la veille de cette rentrée scolaire, nous avons pris, à travers la lettre circulaire 019, nous avons pris un certain nombre de mesures que nous avons demandé à nos camarades, au regard des sacrifices que nous consentons à longueur de journée sur le terrain, qui n'est pas reconnu à la fois par le gouvernement et d'ailleurs par les parents d'élèves. Nous sommes dit que nous allons nous soustraire de ces sacrifices-là. Et ce sont ces mesures-là que nous avons consignées dans une correspondance qui fait qu'aujourd'hui, sur le terrain, effectivement, il y a des difficultés.
Donc aujourd'hui, c'est un boycott, ce n'est pas une grève?
Non, ce n'est pas une grève. Une grève, quand vous partez en grève, vous déposez un préavis de grève. Mm-hmm. Ce n'est pas du tout une grève.
D'accord.
C'est juste des mesures que nous avons prises et qui sont en train de faire leur effet sur le terrain.
D'accord. Djougamadi Sissoko, parent d'élèves, aujourd'hui, vous venez de suivre ce reportage.
Oui.
Et c'est quand même, voilà, comme il a dit, c'est des mesures qu'ils ont prises.
Oui.
Et qui commencent déjà à faire des effets.
Oui.
Vous, en tant que parent d'élèves, quand vous regardez cette situation, d'abord, est-ce que vous comprenez ces mesures que les enseignants ont prises?
Bon, d'abord, je prends mes respects à tes auditeurs et téléspectateurs. Et mes félicitations également à votre endroit, parce que pour tout le sacrifice que vous faites pour nous, les parents d'élèves, pour l'école malienne. Bon, je suis tout à fait, enfin, un peu gêné par rapport au comportement des enseignants, parce que je ne peux pas comprendre que vraiment toutes les règles de déontologie soient quand même foulées comme ça au pied, et que je pensais qu'ils allaient revenir à des meilleurs sentiments. Parce que je le dis sans fausse honte, hein, si vous voyez qu'on a fait un bel effort, un bon résultat, donc, obtenu ça l'année dernière, c'est compte tenu de ce qu'eux, ils ont accompli. Alors moi, je pensais que vraiment, sincèrement, et malgré tout ce que je leur dis, je croyais que maintenant, on allait se mettre ensemble pour essayer un peu d'améliorer la situation, qu'on puisse s'entendre. Parce que rien ne nous oppose actuellement, si ce n'est l'article 39, et je crois qu'on en viendra. Et les méthodes qu'ils ont commencé, parce qu'ils n'ont pas voulu nous dire ça au départ, mais je le découvre avec vous, parce que même l'autre jour à la conciliation, j'avais demandé à ce qu'on nous énumère ça, et je crois que ça n'a pas fait, je n'ai pas été satisfait. Mais malheureusement, heureusement que Al-Moudi lui-même est là, j'espère qu'on en reparlera comme il faut, parce que je ne peux pas comprendre que les notes des enfants, par exemple, c'était sur le patrimoine intellectuel de l'enfant, je ne peux pas comprendre qu'on se le détienne de part de vers soi pour quelque chose que ce soit.
Alors, monsieur docteur Seydou Loa, vous êtes enseignant-chercheur et nous avons vu que parmi ces mesures, il y a la rétention des notes, le refus de prendre des classes de plus de 50 personnes, des classes à double vacation ou à double division. Vous, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ces mesures-là étaient appropriées dès l'entame de l'année comme ça?
Bien, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour l'école malienne à travers l'organisation de ces discussions. Et je remercie tous vos auditeurs, vos téléspectateurs. Concernant les mesures, effectivement, que les enseignants ont eu à prendre pour entamer cette rentrée scolaire, alors moi, je ne suis pas en phase, et pourtant habituellement on est d'accord, mais aujourd'hui je ne suis pas vraiment en phase avec M. Djougamadi Sissoko pour sa prise de position. Mm-hmm. Quand il dit que les enseignants ont foulé au pied la déontologie du métier, je ne suis pas sûr que ce soit comme ça en fait. Les enseignants, ils étaient en grève depuis quelques années déjà, ça n'a pas commencé aujourd'hui, et quand on fait la grève, on fait des stratégies pour que ça fasse mal. Quand on fait la grève, c'est pour que ça fasse mal. Et il faut quand même reconnaître que...
Ils ne sont plus en grève.
Oui, j'ai compris. Il faut reconnaître que les enseignants ne sont pas en réalité les premiers responsables de l'éducation nationale. Ce sont les responsables politiques. C'est l'État, le gouvernement qui est le premier responsable de l'éducation nationale. Et c'est à cet État-là, à ce gouvernement-là, de mettre en place toutes les mesures, toutes les stratégies nécessaires pour que les enseignants puissent être dans les bonnes conditions et pour que les enseignants puissent effectuer leur métier convenablement. Alors si cela n'est pas fait, les enseignants, effectivement, vont manifester cela soit à travers des grèves, soit à travers des boycotts, soit à travers une désobéissance civile. En réalité, certaines mesures que les enseignants ont prises en début de cette année, moi, au contraire, je les salue. Ça fait très longtemps que nous signalons ces difficultés-là. Par exemple, quand ils disent qu'ils ne veulent pas prendre des classes de plus de 50 élèves, moi je pense qu'ils ont parfaitement raison.
Pourquoi?
Parce que quand on est enseignant, notamment au niveau fondamental, une classe à plus de 50 élèves, un enseignant, quelle que soit sa compétence, il ne peut pas obtenir des résultats. Pour la simple raison, prenons les petites classes où on doit apprendre aux enfants à lire. Dans une classe de première année, de deuxième année, de troisième année, normalement, chaque enfant doit lire chaque jour. Normalement, l'orthographe de chaque enfant doit être contrôlée chaque jour. Normalement, le calcul de chaque enfant doit être contrôlé chaque jour. Alors, si la classe est à effectif pléthorique, comment est-ce que vous voulez que l'enseignant fasse correctement son travail? Ça, c'est un premier problème. Donc, je pense qu'ils ont parfaitement raison.
Mais
justement, c'est ce que j'ai reproché aux enseignants. Mm-hmm. Parce que nous, au niveau de l'enseignement supérieur, bon, c'est vrai qu'on n'est pas trop impliqué dans leur mouvement, mais dans nos écrits, dans nos articles, dans nos publications, dans nos communications, nous avons toujours dénoncé ce phénomène-là. Concernant les classes à double vocation, les classes à double division, je pense qu'ils ont entièrement raison par rapport à ça aussi. Les parents d'élèves, normalement, à mon avis, en tout cas, devraient soutenir les enseignants. Pas pour l'application de l'article 39, ça c'est un autre débat, mais concernant ces mesures-là, parce que ça va dans le sens de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Et c'est ce que nous revendiquons depuis la réforme de 1962. Une école performante, une école de qualité. Alors, dans une classe à effectif pléthorique, on ne peut pas avoir un enseignement de qualité. Dans une classe à double division, à double vocation, on ne peut pas avoir un enseignement de qualité. Et encore, les écoles à classe unique, ce qu'on appelle les écus, vous allez trouver dans les écoles, on ne voit pas très souvent ça à Bamako, mais vous allez dans beaucoup de villages, un seul enseignant pour deux salles de classe, pour trois salles de classe, il est l'enseignant, il est en même temps le directeur, et vous voulez encore obtenir des résultats. Parce que si les enfants ne travaillent pas correctement, on va encore accuser l'enseignant, alors que l'enseignant n'est pas du tout dans les bonnes conditions pour faire son travail. Donc, concernant les mesures que les enseignants ont prises cette année, en début d'année, moi je pense que ce sont des mesures que les parents d'élèves doivent soutenir pour qu'on puisse sortir de ces difficultés-là.
Même si ça empêche les enfants d'étudier.
Oui, ça, c'est pas comme si les enseignants empêchent les enfants d'aller à l'école, mais ce sont des choses qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions de travail des enseignants.
D'accord.
Et lorsque ces conditions vont s'améliorer, ben, la question de l'article 39, c'est un autre débat, comme je le disais.
Oui.
S'ils arrivent à régler ça, moi, je pense que l'école malienne connaîtra des jours meilleurs.
D'accord. Voilà. Alors, ces mesures, Ousmane Almourou, ces mesures sont en lien avec l'article 39 dont vous réclamez l'application entière aujourd'hui. Est-ce que vous n'aviez pas d'autres possibilités, par exemple, de discuter avec le gouvernement, des discussions qui se poursuivraient selon certaines informations? Pourquoi avoir pris des mesures aussi drastiques, en tout cas, qui empêchent les enfants d'étudier normalement aujourd'hui?
Non, merci. Mais je voudrais quand même revenir sur deux choses. D'abord, je partage entièrement l'analyse pédagogique des mesures prises données par les collègues de l'enseignement supérieur. Ensuite,
mais le timing, pourquoi avoir attendu aujourd'hui?
J'arrive tout de suite. Parce que j'ai dit, les gens, c'est aujourd'hui que les gens pensent à ça. En 2016, vous savez, le syndicat de l'éducation signataire du 15 octobre 2016, c'est à partir de 2016 que nous sommes regroupés et nous avons déposé notre premier préavis de grève le 15 octobre 2016, d'où l'appellation syndicat de l'éducation signataire. Vous prenez ce préavis, vous regardez là-dedans. On demandait la construction d'écoles publiques. Nous demandons le recrutement massif d'enseignants. C'est pour éviter effectivement ces genres de choses. Aujourd'hui, vous prenez l'ensemble du territoire national. Il y a beaucoup d'états à l'intérieur. C'est des écoles de 6 classes où il n'y a que 3 enseignants. Et ça, c'est ces 3 enseignants qui se répartissent les classes et faisant des sacrifices sans pour autant, effectivement, pouvoir donner le niveau escompté à l'enfant. Parce qu'un enseignant qui est censé prendre une classe de moins de 50 élèves se retrouve avec 2 classes de 100 élèves dans la salle. Ça, c'est même pas à l'intérieur. Vous partez à Sokona, à Sirakorafine, tout de suite, il y a plus de 150 élèves par classe. Tout près ici, à Kati, à l'entrée de Bamako. Et c'est les enseignants qui sont en train de faire ça. À partir du moment que les enseignants consentent de ces arts de sacrifice et qu'on pense que l'enseignant ne fait rien, je pense qu'à un moment donné, il faut se soustraire de ces mesures.
Mais c'est parce que aussi donc, votre aujourd'hui, article n'est pas appliqué.
Donc aujourd'hui, effectivement, ça fait partie des mesures parce que nous sommes en mouvement de grève, nous sommes en train de demander l'application d'une loi. Le gouvernement ne nous a pas écoutés. Forcément, il faut prendre des mesures et des mesures qui font mal. Vous dites que c'est des mesures drastiques. Il y a encore des mesures plus drastiques que nous allons prendre dans les jours à venir. C'est très clair que nous sommes dans cette dynamique. Maintenant, le reste, c'est de dire que ces mesures, nous les avons prises parce que nous étions dans des négociations avec le gouvernement. Les négociations auxquelles le gouvernement ne veut pas du tout appliquer la loi de la République. Le gouvernement nous a laissé, et ça a été dit partout, qu'avec ou sans nous qu'ils vont faire leurs examens. Ils ont fait les examens. Aujourd'hui, nous sommes à l'école. Et vous pouvez aller ramasser quelqu'un dans la rue pour qu'il vienne surveiller, mais je ne pense pas si on va ramasser quelqu'un dans la rue pour qu'il puisse dispenser les cours. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ça. Ce n'est pas de... Et ça, je pense que chaque fois que nous avons eu l'occasion de le dire, nous le disons aux gens, ce n'est pas par gaieté de cœur que les enseignants sont dans cette situation. Et ça ne fait pas honneur à l'enseignant de voir chaque fois ses enfants. Je pense que nous sommes plus attachés à ses enfants que les parents d'élèves. Les parents d'élèves, surtout les parents d'élèves politiques, nous sommes plus attachés aux enfants que ces parents d'élèves-là.
D'accord. Alors, Djougamari Sissoko, il vient d'évoquer des arguments. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ces arguments, le fait qu'il y a des effectifs pléthoriques dans certaines classes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ils ne profitent pas de ce désaccord avec le gouvernement par rapport à l'application de l'article 39 pour mettre sur la place publique ces problèmes? Est-ce que c'est le moment opportun?
Bon, ça dit que moi-même, je me pose la question, mais je me demande même où est-ce qu'on est. C'est maintenant qu'on vient nous dire que bon, qu'on vient nous dire qu'il y a pléthore dans les classes. Ce n'est même pas le moment. Moi, j'estime quand même, si les enseignants, au départ, même depuis très longtemps, nous avaient signalé ces problèmes-là, ou du moins avaient pris ce problème-là à bras le corps, on les aurait soutenus. Et même maintenant, nous les soutenons. Mais ce que nous ne comprenons pas, ce n'est pas en allant se coucher qu'on dit qu'on va manger, qu'on a faim. Et je suis vraiment désolé, M. Loua. Je crois que c'est de bonne guerre. Hein. Je crois que tu es dans ton rôle parce que c'est une position, comment on appelle ça encore, c'est corporatiste. Parce que, je comprends, je suis assez intelligent. Pardon, excusez-moi. Je crois que vraiment, il faut qu'on mette un peu de... Allez-y. Mettre un peu de sérieux là-dedans. Mm-hmm. Je crois que quand vous dites ça, c'est tout à fait normal. Moi, c'est ma pensée qu'ils aient encore beaucoup plus d'aptitudes professionnelles pour pouvoir enseigner nos enfants. Mais ce n'est pas le moment de revendiquer cela. Al-Moudou, quand vous nous dites comme ça, là, vous nous étonnez. Mais vous, là, vous avez étudié comment? Vous avez étudié sous le manguier ici. Vous avez étudié sous le jujubier ici. Vous avez étudié sous le séco. Maintenant, quand même, tout le monde a les voies et les moyens ensemble pour pouvoir remédier à tout cela. Ce n'est pas maintenant qu'on a des problèmes que vous allez évoquer ça. Mais Al-Moudou, si vous nous dites ça, vous avez été vraiment un peu ingrat. Des gens vous enseignent ici sous les secours, vous enseignez ici à 60, 80, 100. Et maintenant, c'est maintenant vous, parce qu'il y a un problème de l'article 39 de consort, que vous nous sortez le fait vraiment de ne pas donner des cours aux enfants parce qu'il y a pléthore d'enfants. Il y a classe à double vacation?
Oui, mais non. Mais est-ce que c'est parce qu'eux, ils ont appris dans des classes à effectif pléthorique qu'ils doivent...
Non, justement. Mais ça dit que maintenant, en l'évoquant maintenant, nous sommes un peu gênés. Même la guerre a des règles, mon cher ami. Vous me comprenez? Mm-hmm. C'est la plus stupide d'art des choses. La guerre, ceux qui se font s'entretuent entre eux, ne se connaissent pas. Ceux pour lesquels ils s'entretuent prennent le café ensemble. Moi, je crois que vraiment ces positions-là ne doivent pas maintenant, aujourd'hui, nous être posées. Parce que ils ont la latitude de nous poser à un moment donné pour qu'on le règle ensemble. Je suis vraiment gêné. Parce que quand on nous dit qu'on a été prendre n'importe quoi pour causer même ces examens-là, parce qu'on a dit qu'ils ont dit tout à l'heure qu'on voulait les examens, c'est passé, que vraiment, ils ne peuvent. Non, ce n'est pas ça. À un moment donné, ils n'ont pas voulu faire l'examen au niveau de nos enfants. Nous avons trouvé qu'il fallait trouver d'autres solutions. Mais moi, je vous pose la question. Si on avait sursis à l'épreuve des examens l'année dernière, cette année, mm-hmm. plus de 100 000 et quelques élèves au bac, plus de combien de milliers d'élèves au BF et consort, est-ce qu'on ne va pas les regretter en amont? Mais je vous en prie, soyez un peu sérieux. Essayons de voir ensemble. Si ce nombre de glace s'était rajouté sur ceux qui ont fait le DF l'année dernière ou le DAC l'année dernière, est-ce qu'on aurait pu trouver la solution?
Oui, mais jusqu'à présent, on n'a pas de solution. Parce que les gens, les admis, d'abord, on ne parvient pas à les...
Mais justement, c'est de ça que nous allons parler cet après-midi. Mm-hmm. Les raisons qu'ils ont évoquées, mm-hmm. nous allons évoquer ça ensemble. Nous allons partager ça avec tous les spectateurs pour qu'on sache au moins vraiment où le bas blesse.
D'accord. D'accord. Docteur Loua, nous pensons que les enseignants ont développé des arguments ici. Alors, même si nous ne sommes pas tous d'accord avec ces arguments, est-ce qu'aujourd'hui, le fait de retenir les notes de classe qui empêchent certains élèves de savoir s'ils doivent passer en classe supérieure, même si certaines écoles ont pris des mesures en prenant par exemple les notes du premier trimestre de l'année. Que pensez-vous de toute cette situation? Est-ce que c'est une bonne stratégie?
Oui, concernant la rétention des notes, bon, d'abord, juste pour dire à M. Sissoko que la pléthore des effectifs, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je pense que tout le monde est au courant. C'est pas ce soir qu'on va donner l'information aux téléspectateurs. Tous ceux qui connaissent l'école publique malienne savent ce qui se trouve dans l'école publique malienne. Et cette école publique est délaissée par les autorités depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Et ce sont les conséquences de ce délaissement que nous vivons aujourd'hui. Maintenant, concernant la rétention des notes, moi, franchement, ça, c'est une mesure que moi, je ne comprends plus. Le fait que les enseignants disent qu'ils ne sont plus en grève, donc je pense que la rétention des notes n'a plus son sens, en réalité. Et puis, si les enseignants, aujourd'hui, déposent ces notes-là, ça ne changera absolument rien à leur lutte. Ça ne changera rien à leur lutte parce qu'ils ont toujours des stratégies, comme nous venons d'en parler. Il y a toujours la grève qui est là. Le fait de ne pas évaluer, parce que ça fait partie des mesures qu'ils ont mises en place cette année, le fait de ne pas prendre de classe à effectif pléthorique, toutes ces stratégies sont encore là. Maintenant, le fait que la grève est suspendue pour le moment, je pense que l'année a été en quelque sorte sauvée, même si je n'aime pas trop cette expression-là. Ils peuvent déposer ces notes-là et, à mon humble avis, cela ne gâchera absolument rien à leur lutte qu'ils viennent de commencer cette année.
Al-Moudou, est-ce que vous faites preuve de responsabilité? Est-ce que vous vous assumez, soit vous allez en grève totalement, ou bien si vous n'êtes pas en grève, vous donnez les notes pour que les enfants puissent aller en classe supérieure?
Nous nous assumons, et nous assumons entièrement nos responsabilités par rapport à toutes les décisions que nous prenons, entièrement.
Pourquoi ne pas aller en grève, simplement?
Non, vous êtes pressé. Je viens de vous dire tout de suite que nous sommes dans une dynamique. Au moment d'aller en grève, on ira en grève. C'est très clair. Ça, on a aucune arrière-pensée par rapport à ça. Donc nous sommes des syndicalistes. Nous avons notre stratégie de lutte. Nous sommes en train de partir à notre rythme. Et au moment où il faut aller en grève, nous irons en grève. Ça, vraiment, ne vous en faites pas pour ça. Mais ce que je voudrais dire, l'ingratitude, c'est lorsque on voit la vérité et on ferme le jeu là-dessus. En fait, c'est ça.
C'est quoi la vérité?
Non, la vérité, c'est que nous sommes en face de l'application d'une loi. Ces parents d'élèves qui sont en train de critiquer les enseignants aujourd'hui ne se sont jamais levés pour dire au gouvernement ce que les enseignants sont en train de demander, c'est une loi, il faut l'appliquer. Je pense que c'est là où ils doivent intervenir. Pour venir à votre question, par rapport à la rétention de notes, je vous avoue qu'à un moment donné, nous étions à la veille d'une réunion où on devait aller à un réaménagement pour voir comment est-ce qu'il faut voir cette question des notes. C'est lorsque l'association des parents d'élèves est sortie faire une déclaration stupide que nous avons dit qu'on ne va pas revenir sur notre décision. Parce que je pense, quand on est irresponsable, surtout quand on se dit vieux...
Est-ce que c'est pas quand on se dit vieux, déclaration stupide?
Mais c'est une déclaration stupide. Et quand on se dit vieux, on construit. On ne détruit pas. Et c'est ce que nous, on attend d'eux.
La seule organisation
en termes de fêtière à laquelle nous avons accepté de nous déplacer pour aller les rencontrer à leur siège, c'est la Fédération nationale des parents d'élèves. En dehors de cette fédération, toutes les organisations qui ont souhaité nous rencontrer, nous avons demandé de venir se présenter à la maison de l'enseignant. Je pense que c'est par respect. Et au lieu d'aller faire ces genres de déclarations, on vient d'abord, nous sommes des partenaires, on se parle d'abord avant d'aller faire de telles déclarations. Donc aujourd'hui, ce qui est clair, je vous le dis, nous avons pris des mesures, nous sommes en train d'évaluer ces mesures. Au fur et à mesure, s'il y a des mesures à réaménager au cours du processus, on va les faire. S'il y a des mesures à renforcer au cours du processus, nous allons les faire. Et au moment venu, soit on doit aller à un mouvement de grève, nous allons pas
trop. Alors dites-nous, où est-ce que vous en êtes avec les discussions avec le gouvernement?
Bon, pour le moment, on a fait, je crois, deux séances de discussion. Deux séances, je crois.
Et... Où se trouve le blocage?
Le blocage, c'est qu'on ne parle pas, on ne parle pas le même langage. Quand nous demandons au gouvernement d'appliquer la loi qui s'est traduit par l'élaboration d'une nouvelle grille pour le personnel enseignant, le gouvernement nous demande, nous propose une augmentation, en fait, des primes et des indemnités. Et je pense que la dernière négociation, ils ont proposé une majoration de 10% de l'indemnité spéciale de responsabilité.
Vous n'êtes pas d'accord.
Et ça, ça, je pense que c'est, en allant dire ça, c'est une insulte. Vous prenez un enseignant de la catégorie C, l'indemnité spéciale de responsabilité, ça fait 31 000 francs. Vous le proposez, 10% de 31 000 francs, ça fait quoi? Ça fait 3 100 francs. C'est-à-dire que c'est une augmentation qui va de 3 100 francs à 6 800 francs. Vous pensez que ça, c'est des propositions qu'on peut faire à un syndicat de l'éducation, à des enseignants du Mali?
Alors, du coup, Marie, avant de vous donner la parole pour que vous réagissiez à cette question par rapport aux discussions avec le gouvernement, je voudrais vous inviter à suivre ce deuxième élément signé Fatih Yattara. Cette situation n'est pas constatée à Bamako seulement, mais à l'intérieur du pays aussi, il y a des élèves qui font pas cours, ils viennent à l'école, il n'y a pas de cours. On va suivre ce papier et puis revenir pour essayer d'analyser cette situation.
Au nord du Mali, dans la région de Meneka, au moins 19 écoles sont restées fermées dans la localité d'Adramboukane. L'absentéisme de certains enseignants et l'insécurité, selon les autorités scolaires, en sont les causes du phénomène. C'est la même situation qui prévaut dans certaines localités du centre. À Ségou, plus de 95 écoles sont fermées dans les CAP de Farako et de Niono pour les mêmes raisons. Toujours à Ségou, pour pallier les problèmes, certains établissements ont opté pour une classe unique, c'est-à-dire mettre plusieurs classes différentes ensemble pour permettre aux élèves de suivre les cours. C'est là à cause du manque d'enseignants et le délabrement de certaines classes, soulignent les responsables scolaires. Dans les sites du pays, notamment à Bafoulabé, région des Kay, et CBT, Toubakoro et Toukoroba, dans les cercles des Banamba, région de Koulikoro, pas de reprise effective des cours. Cette perturbation est due, selon les autorités scolaires, aux grèves et l'absentéisme des enseignants.
Alors, on vient de l'entendre, des écoles fermées pour des raisons de sécurité, mais également des écoles où les enseignants sont absents. Si nous revenons à cette mesure d'effectifs pléthoriques, aujourd'hui dans les régions de l'intérieur, on sait qu'il y a des déplacés dans beaucoup de localités. Aujourd'hui, si les enseignants demandent à ceux que, voilà, de ne pas prendre des classes de plus de 50 élèves, est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'ils ont pensé à cet état de fait aussi?
Bon, avant même vraiment d'aborder ce passage, je voudrais vraiment dire un peu à Mouloud de mettre un peu d'eau dans son breuvage, pour ne pas traiter les gens de vieux ou ceci, cela, c'est pas très commode, c'est pas très élégant. Bon, parce qu'il l'a dit, parce que ceux qui sont allés faire des déclarations l'autre jour là, sont dans leur régalien, ça fait normal, ils ont dit non, la rétention des enfants, nous ne sommes pas d'accord. C'est la propriété intellectuelle de l'enfant. Ils n'ont pas le droit de violer ça. Ils n'ont pas le droit de retenir cela. Ils ont des devoirs, ils ont des droits également eux-mêmes. Les enfants aussi ont des droits. Il faut qu'on observe ça un peu. L'article 71 de la réorientation sur l'éducation dit, dans ces passages, que vous ne devez pas ce que vous devez faire. L'article 41, 42, 43 évoque également des passages qui intéressent les enfants, les droits des enfants. Mais nous pensons que vraiment nous sommes vraiment là où vraiment on en est actuellement. Nous voulons seulement mettre un peu, ne pas mettre le feu sur l'huile sur le feu. Mais quand vous nous dites cela, c'est leur rôle, mais est-ce que vraiment ils iront jusqu'à faire ça? Ils ne l'ont pas jusqu'à faire ça, ça c'est pas possible, ils ne peuvent pas porter plainte contre vous. Mais Al-Moudou, nous avons beaucoup de respect pour vous et d'estime pour vous. Peut-être que bon, on peut souvent vous engueuler ou bien raconter pas mal de... Mais en réalité, il n'y a rien de méchant là-dedans. Bon, quant à la rétention de nos enfants, ça été, le sens même du syndicalisme a été galvaudé depuis très longtemps. Parce que les gens, ils sont syndicalistes aujourd'hui seulement, ils s'imposent parce que bon, ils n'observent même plus les règles de l'art. Comment tu peux retenir les notes des enfants? Comment tu peux dire même à un enfant, tu retiens même sa carte d'identité pour ne pas participer aux examens? Ils ont poussé l'étrudiance jusqu'à cela. Mais nous savons que c'est de bonne guerre. Nous allons en parler et puis on va passer. La qualité de l'école aujourd'hui nous intéresse. Et mettons-nous ensemble pour parler de cela. Pour le bonheur de nos enfants. Le Mali était un pays intelligent avant, hein, studieux avant. Hein. C'est nous qui fournissions des enseignants à la Côte d'Ivoire à l'époque, au Gabon, à pas mal de pays ici. Maintenant, nous sommes réduits à voir nos enfants cancres. On a concrétisé nos enfants.
Oui, mais ça, c'est une situation qui perdure.
Mais, je vais vous dire une chose. Ce qu'on ne dit pas aux gens, moi, je veux être vraiment, je veux m'assumer également. Je ne porterai jamais plainte contre eux, même si je le dis, je ne le porterai jamais. On a donné ici 5 milliards pour pouvoir améliorer la qualité de l'école.
mais ils ont préféré partager cela entre eux pour d'autres besoins.
Qui?
Mais les enseignants, les syndicats. Aguerla fait là, il m'entend, il sait très bien ce qui s'est passé. D'accord. Mais vraiment, nous ne venons pas de tout comme ça. Moi, je crois que vraiment, idéalement, maintenant, il faut qu'on se mette ensemble pour qu'on trouve pour l'école une qualité.
D'accord.
La qualité requise.
D'accord. Ma question, la réponse à ma question, l'impact de ces mesures-là sur les élèves, les enfants de l'intérieur du pays.
Mais en réalité, ils ne sont pas de bonne foi avec nous. Ils ont promis vraiment de venir pour qu'on se mette à table. Mais en réalité, ils rejettent tout d'emblée.
D'accord.
Et moi, j'ai dit que la cible atteignable ici n'est pas vraiment, ne sont pas les enfants, ces responsables-là auxquels ils en veulent. La cible, ce sont nos enfants qui vont en pâtir. Et c'est encore à Bamako ici. Regardez un peu à l'intérieur, comment ça se passe. Il n'y a même pas d'école par endroit. C'est ce que nous devrons ensemble étudier et auquel trouver des solutions. C'est pas parce que eux, aujourd'hui, ils sont de façon fiduciaire, ils ont des problèmes, qu'on va quand même dire que bon, on retient les notes des enfants, on n'y va plus, que quand la classe atteint les 50 élèves et qu'on ne donne plus de cours. Mais mon cher ami, au Mali ici, depuis quand on peut fermer, on peut refuser de donner des cours parce que la classe a plus de 50 élèves?
D'accord.
Ça veut dire que maintenant on veut faire mal aux enfants des pauvres?
D'accord. Docteur Loa, pourquoi, après toutes ces années, cette crise, désolé, on ne parvient toujours pas à trouver une solution? Est-ce qu'il y a une mauvaise foi de part et d'autre, ou bien qu'est-ce qui explique cela?
Bon, moi, je pense qu'il y a surtout une mauvaise volonté politique. Vous savez, M. Sissoko, un enseignement de qualité va de pair avec l'amélioration des conditions de travail des enseignants des apprenants. Donc, on ne peut pas obtenir un enseignement de qualité en mettant les enseignants dans une situation impossible. Donc, il faut vraiment, à un moment donné, que l'État prenne ses responsabilités. Quand on vote un texte législatif, on l'applique. Si on ne peut pas l'appliquer, on ne le vote pas. C'est aussi simple que ça. Donc, à un moment donné, l'État doit prendre ses responsabilités. Ça fait plus de 10 ans. Chaque année, on parle de sauver l'année. Chaque année, on parle de sauver l'année. Et nous l'avons dit ici l'année dernière sur votre antenne. À un moment donné, il faut chercher à sauver l'école. Il faut chercher à sauver l'école malienne et que chacun essaie d'y mettre un peu du sien. Que ce soit les parents d'élèves, les enseignants eux-mêmes, mais surtout que ce soit l'État qui est le premier responsable de toutes ces situations. Lorsque les enfants sont concrétisés, pour reprendre l'expression de M. Sissoko, le premier responsable, ce n'est pas les enseignants, c'est les responsables politiques. C'est eux qui ont mis l'école publique dans cette situation. Non, je n'ai pas dit ça. Je viens de vous dire que chacun doit y mettre du sien. Mais certains sont plus responsables que d'autres. Mais certains ont plus de
chercheurs.
Certains ont plus de responsabilités que d'autres. Et nous, nous faisons notre travail, nous faisons nos publications, et dans chacune de nos publications, nous évoquons ces sujets-là. Donc, pour sortir de ces situations-là, l'État doit prendre ses responsabilités en mettant effectivement en avant, comme M. Sissoko le disait, l'intérêt des enfants, l'intérêt de ceux qui apprennent. Et à un moment donné, on ne peut pas voter des textes et refuser de les appliquer. Lorsque les enseignants sont dans leurs droits, c'est quand même difficile de dire à quelqu'un de ne pas revendiquer son droit.
Alors, en parlant d'application du texte, c'est article 39.
Oui.
Il y a plusieurs gouvernements. C'est le deuxième. Le régime de fin d'Ibeka n'a pas pu l'appliquer. Les autorités de transition, les autorités, dès leur arrivée, ils ont dit d'appliquer cette loi.
Oui.
Mais après, ils se sont rétractés. Ça veut dire que l'État n'a pas les moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, les enseignants voient ce côté-là? Est-ce qu'il n'y a pas de problème?
Si l'État n'a pas les moyens en fonction de la situation actuelle du pays, l'État doit appeler les enseignants pour faire une discussion franche. Les enseignants, cette année, on peut dire que les enseignants ont fait un premier pas vers la résolution de cette situation de crise en acceptant déjà de rentrer. Même s'il y a toutes ces mesures qui font que les cours ne sont pas vraiment effectifs, l'État doit saisir cette opportunité pour faire un pas aussi vers les enseignants. L'article 39, tel que c'est écrit, actuellement, si ce n'est pas applicable, mais qu'est-ce qui est possible de faire? Il faut des propositions concrètes. Et de propositions concrètes à propositions concrètes, moi, je pense que les enseignants et l'État malien vont trouver un terrain d'entente. Nous sommes tous des Maliens. Tout le monde veut l'intérêt premier des enfants. Donc, tout le monde veut que l'école malienne sorte de cette crise sans fin. Nous sommes dans un circuit infernal. On ne sait même plus comment s'en sortir. Donc, si les enseignants font un premier pas, l'État doit faire un pas vers les enseignants, que ce qui est possible soit proposé, que les parents d'élèves veillent à la l'application de ces propositions-là et on va sortir de ces crises.
Alors, Almoudou, vous avez fait un premier pas.
Non, vous permettez quand même, il y a des choses qui sont dites ici, qui ne sont pas vraies, qu'il faut corriger, à cet article 39. Vous me permettez.
Oui.
Un, d'abord, il est très facile de prendre les lois, les articles qui intéressent les enfants. Mm-hmm. Mais dans la même loi d'orientation, il y a des articles qui accordent des droits aux enseignants. Dans la même loi du personnel enseignant, il y a des articles qui concernent les droits des enseignants. On n'évoque pas ça, mais on en passe parce qu'on comprend clairement la position. On est toujours du côté du pouvoir. L'autre chose, j'ai mis quiconque au défi de nous faire sortir une lettre circulaire, un communiqué de la Synergie demandant de retenir des cartes dentaires de quelqu'un. Je mets quiconque au défi ici.
D'accord.
De faire sortir avec ça. Maintenant, la troisième chose, vous permettez. 5 milliards 620 millions, dire qu'on a donné ça aux enseignants et que les enseignants sont le répartis, je m'inscris en faux. Vraiment, je pense que ce sont ces genres d'informations qu'on fait circuler dans la ville qui font que les gens ne comprennent pas la situation. Les syndicats de l'éducation sont partis en mouvement de grève pour avoir un statut avec une grille. Le gouvernement d'alors dit que votre grille, on vous donne 5 milliards 620 millions pour élaborer la grille du personnel enseignant. Aujourd'hui, que les gens disent que la loi n'est pas appliquée, c'est faux. La loi est appliquée depuis le 1er janvier 2018. Depuis le 1er janvier 2018, la loi est en application. Donc si aujourd'hui les gens viennent nous dire que la loi n'est pas appliquée, etc., il y a la loi, l'article 39, qui dit que effectivement, chaque fois qu'il y a des majorations sur les statuts généraux, cette majoration, on donne ça aux enseignants. On est dans ce mouvement. On n'est pas dans le problème de l'application de la loi. La loi est appliquée et mise en œuvre depuis le 1er janvier. Ça a été promulgué par le président de la République le 16 janvier 2018 et mis en application le 1er janvier 2018. Donc, je pense qu'il faut qu'on sorte ça. Les 5 milliards 620 millions ont été donnés pour élaborer la grille annexée au statut du personnel enseignant avec l'indice plafond 1060.
Alors, si la loi est appliquée, quel est le problème maintenant?
Non, le problème, c'est que la loi, aujourd'hui, il y a l'article 39 qui donne des majorations. En 2019, il y a une majoration sur le statut général. C'est ce que les enseignants ont demandé, que le régime d'antan n'avait pas voulu faire. Mais nous sommes arrivés en négociation le 17 juin 2020. Nous avons signé un procès verbal de conciliation avec le gouvernement pour aller à son application suite au discours du président Ibrahim Boubacar Keïta. Et entre-temps, les événements du 18 août sont arrivés. Quand les militaires sont venus, on est parti en négociation à Kati. Oui, vous avez signé un procès verbal de conciliation, mais voici le procès verbal, le délai qui est dans ça, on ne peut pas respecter ce délai-là. Donc, on a négocié pour amener ça au mois de novembre. On a décalé le délai de 2-3 mois, je pense, pour aller à son application. Entre-temps, en 2021, il y a eu un mouvement qui a fait une majoration sur le statut général. Les mêmes dispositions doivent s'appliquer. On est dans ça aujourd'hui.
Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'État est en mesure d'appliquer cet article 39?
Il n'y a aucun problème en termes financiers pour aller à son application.
Donc c'est un
manque de... C'est purement un problème politique. Vous savez, quand les syndicats de l'éducation demandent l'application à la finance, en disant évalué, ça fait 23 milliards. Ce que le gouvernement vient d'affecter l'unification, ce qu'ils ont appelé l'unification des grilles, moi je ne le dis pas, c'est le document officiel. Lorsqu'ils sont partis défendre ce projet à l'Assemblée, ça fait 108 milliards. Comparé 108 milliards à 23 milliards, donc ce n'est pas un problème d'argent.
D'accord. Djougamadi, si ce qu'on parle beaucoup de refondation de l'État, il y aura des assises dans ce cadre-là aujourd'hui. Est-ce qu'on ne doit pas prendre cette crise scolaire avec beaucoup de sérieux et peut-être même en parler au cours de ces assises? En tout cas, il faut trouver une solution. Et pour vous, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui?
Je crois que vraiment, c'est la solution idéale. Il faudrait maintenant qu'au cours de ces assises-là, que nous en venions à trouver des solutions définitives et pérenne. Parce que qu'est-ce qui se passe? L'article 39 là, quand Almoudou évoque ça comme ça, l'article 39 là est abrogé. Moi je vais vous le dire parce que moi c'est pas la peine de se fermer les yeux là-dessus. Quand l'article 39 a été signé par le CNSP à l'époque, parce que je vous parle d'abord, je suis conciliateur, j'étais là-dedans. Et c'est pour ça que souvent je ne voulais pas parler parce que pour ne pas gêner la conciliation. Mais ce jour-là, c'est moi qui ai demandé au CNSP de trouver la solution parce que vraiment, il est temps maintenant que nos enfants aillent à l'école. Ils ont bel et bien dit que oui, ils vont trouver la solution, mais de leur accorder encore 2 ou 3 mois. Je ne sais pas, 3 mois. Mais après, maintenant, on reverra la situation. C'est comme ça que ça s'est passé. Et quand on a commencé à appliquer cette loi-là maintenant, une loi s'est faite, elle est faite pour quand même rendre beaucoup plus à l'aise la population. Mais quand elle commence à gêner tout de même, par dire, il est temps maintenant qu'on revienne là-dessus. La loi commence à déranger maintenant parce que pourquoi ?
Ça dérange qui ?
L'application de cette loi n'est insoutenable par l'État du Mali. Ils l'ont dit, ils l'ont prouvé par mille occasions. Bon, ça, tu ne détiens pas le monopole de la vérité, encore moins celle de la raison. Non, pardon, je crois qu'il faudrait
qu'on se... Oui,
tout prouve maintenant que cet article-là maintenant est inapplicable. Parce que pourquoi ? Depuis au temps de Rakitala a dit, l'ancien ministre de la pension publique ou du dialogue social, elle avait dit que c'était insoutenable. Vraiment, on l'a même taxé de ceci, cela, parce qu'elle a dit que non, le nombre d'enseignants est assez élevé pour qu'on le traite comme ça. Celle-là, on lui a traité de tous les noms d'oiseaux. Boubou Cissé était mis
Docteur Loa, que faut-il faire aujourd'hui pour résoudre définitivement? Que faut-il faire aujourd'hui?
C'est leur habitude. Chaque fois qu'ils sont un peu gênés seulement, ils rentrent en transe.
On a plus de temps. L'émission est presque finie.
Parce que c'est leur mentalité. De façon générale, parce que les assaillants sont nombreux, on pense que les assaillants n'ont pas le
droit. Docteur Loa, que faut-il faire aujourd'hui? Monsieur Sissoko, on va vous redonner la parole tout de suite. Ok. Vous avez 30 secondes parce qu'on n'a plus de temps.
Bon, c'est pas maintenant que tu as nous dit. D'accord. Il fallait tenir compte de cela pour ne pas avoir des questions comme ça.
D'accord, rapidement.
Bon, 30 secondes. C'était plus applicable. Il y a eu un décret, une ordonnance qui a été prise récemment qui a dit. Toute disposition antérieure est abrogée. Ça veut dire qu'intelligemment, ça veut dire qu'on est revenu sur l'article 39. Mais d'autres conditions maintenant qui pourraient éventuellement enrichir, sinon vous mettre à l'aise. Évoquons ça ensemble. On vous a donné l'autre jour, vous nous avez amené des propositions d'évaluation de grilles. On a dit, bon, maintenant, on veut tout faire. C'est nous qui avons proposé à ce que vraiment on vous accorde des indemnités nécessaires pour que vraiment vous soyez encore plus à l'aise.
D'accord. Nous avons compris. Les parents d'élèves ont joué un grand rôle. Alors, docteur Loa, que faut-il faire aujourd'hui pour résoudre définitivement?
L'actuel Premier ministre a dit devant tout le monde, devant le monde entier, que l'article 39 n'est pas abrogé. Voilà. Donc, pour sortir de la crise, moi, je pense qu'il y a eu tellement de propositions pour sortir de la crise. En fait, ça ne servira à rien d'aller dans les assises, parler encore de l'école et continuer avec les mêmes comportements. Après, ça ne servira à rien. Il y a eu beaucoup de réformes, il y a eu beaucoup d'innovations. Les recommandations sont déjà là. Les meilleures recommandations sont là. Il faut les appliquer pour sortir de l'école de cette crise-là.
D'accord.
Et régler la situation de l'article 39 des enseignants pour qu'on puisse sauver l'école et qu'on puisse avoir des élèves performants et un Mali meilleur.
Almoudou, en 30 secondes, que faut-il faire pour régler définitivement?
Pour l'ordonnance.
L'ordonnance est composée
de quatre articles. Le premier article unifie les grilles. Et le dernier article, le quatrième article, dit que toute disposition antérieure. L'ordonnance fait référence aux grilles. Et les grilles, dans le statut du personnel enseignant, c'est l'article 37 qui parle de ça. Vraiment, tant qu'on continue dans ce pays-là, les gens font des interprétations comme ça, des trucs, on ne peut pas avancer.
D'accord.
Nous, aujourd'hui, si on nous invite à la négociation, c'est ce que nous avons tout tendu au gouvernement, venons élaborer la grille du personnel enseignant. C'est la seule alternative aujourd'hui. Toute discussion à la dans des questions des primes et des indemnités, nous, syndicats de l'école, ne sont pas là-dedans.
D'accord. Alors, cela est bien compris. Et c'est sur ce que prend fin ce grand dialogue qui parlait de l'école malienne. Que faut-il faire pour éviter d'autres perturbations pour cette année scolaire 2021-2022? Pour en parler, nos invités étaient Almoudou Ousmane, porte-parole des syndicats signataires du 15 octobre 2016, Dr Seydou Loa, enseignant-chercheur, et Djougamadi Sissoko, parent d'élèves. Ce débat a été réalisé en partenariat avec le programme d'engagement civique. La mise en onde a été assurée par Seydou Ndao, la régie vidéo Mamadou Ouattara. Sékou Gadjigo a eu le plaisir de présenter cette émission. À demain pour un autre numéro du Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chien Nibiri.
Halou Mouni.
Chien Nibiri.
Sigi Kafoba.